Vivre FM, l'invité de la rédaction, podcast.
On va parler de logement ce matin sur l'antenne de Vivre FM avec notre invité Christophe Noénaud. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes responsable du développement à l'Association des paralysés de France. Quand on parle de logement pour des personnes handicapées, il y a deux solutions. Soit on est dans un appartement chez soi, pour peu qu'il soit à peu près accessible, soit on est dans un foyer. Et là, on s'occupe de vous complètement du soir au matin. Vous êtes logé, nourri, blanchi. Et vous, ce que vous dites à l'APF, c'est que peut-être il peut y avoir d'autres solutions pour permettre à des personnes handicapées, quelquefois lourdement handicapées, d'être autonomes chez elles.
Oui, effectivement, on a fait une étude sur l'ensemble de nos établissements et services et on s'est rendu compte qu'il y avait très nombreux établissements qui avaient créé des logements par démembrement des foyers en particulier. Donc on a des solutions intermédiaires qui émergent comme ça un peu partout, qui n'ont pas vraiment de cadre, mais qui, bon, on peut les apparenter à de l'innovation, et qui permettent à des personnes handicapées de quitter l'établissement médico-social pour se tester ou pour rester au long cours dans un logement accompagné, sous réserve souvent d'avoir un étayage, un service.
Quelqu'un qui passe régulièrement.
Des services de nuit, des services de soins en fonction des besoins de la personne.
Mais pendant longtemps, à l'Association des paralysés de France, on a considéré que la condition sine qua non pour le logement, pour l'accès au logement pour les personnes handicapées, c'était que le bâtiment soit accessible. C'est-à-dire qu'il suffisait d'un plan incliné, puis finalement, les gens pouvaient être autonomes. Et en fait, ce que vous dites aujourd'hui, c'est que c'est plus compliqué que ça. Les personnes ont d'abord besoin d'un accompagnement, de quelqu'un.
Alors, l'accessibilité reste en France, on le sait, un problème majeur dans les établissements recevant du public, dans les logements qui sortent de terre, c'est clair. Mais techniquement, on sait y répondre. Pour peu que les constructeurs jouent le jeu et qu'il y ait les conditions, ce prérequis, on sait que ce qui peut freiner un logement classique, c'est souvent l'accompagnement, la sécurité. C'est souvent une question qui revient souvent. Est-ce que je vais être en sécurité au sein de mon logement ? C'est les besoins sur des aides techniques.
Se lever le matin,
besoins
pour la toilette.
Exactement, c'est ça, oui. J'ai besoin qu'on m'aide pour passer dans mon fauteuil, ou bien aussi pour des personnes avec une déficience intellectuelle ou du handicap psychique, j'ai besoin d'une présence assez souvent pour vérifier que dans le frigidaire j'ai ce qu'il faut, ou que mon budget soit bien suivi. Donc c'est une palette de services, en fait, au-delà de la question de l'accessibilité, qui reste la condition première pour quelqu'un en fauteuil. Mais c'est un ensemble qui doit permettre de sécuriser le logement et permettre à la personne d'être en dehors du médico-social.
Alors, il y a un certain nombre de places dans des foyers aujourd'hui en France. On sait qu'on manque de places, on manque de structures pour accueillir correctement un certain nombre de gens, en particulier les personnes les plus lourdement handicapées. Est-ce que si on va chercher des solutions de type l'appartement en ville, le HLM avec un accompagnement, ça permettrait de laisser plus de places dans des foyers, dans des lieux d'accueil pour des personnes peut-être les plus lourdement handicapées ?
Alors, sujet compliqué parce que le diagnostic n'est pas tout blanc, n'est pas tout noir. Il y a effectivement, comme vous le dites, je pense que vous dites, on a un manque de place, notamment dans le champ du polyhandicap, pour faire court, sur
donc
certains départements.
Donc le handicap sévère à la fois mental et
voilà,
moteur.
Voilà, une personne qui a des très nombreuses difficultés et qui, dans tous les cas, ne peut pas se débrouiller seule. Là, on a un certain nombre de départements, je ne citerai pas de nom, où on a des manques criants de place, avec là des moyens
par
de...
Par exemple,
de
dans une grande ville capitale.
Par exemple.
À Paris. Ouais,
par exemple. Mais pas seulement. Mais effectivement, on a des territoires qui sont vraiment avec des besoins criants sur le champ du polyhandicap. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, de manière globale, sur le manque de place, on a un problème d'observation. On ne sait pas compter dans le champ du handicap. Hein, c'est terrible, mais...
Ah oui, parce que les gens sont sur quatre listes d'attente en même temps. Il y a des gens qui ont renoncé, qui se sont retirés des listes d'attente et qui sont chez les parents. Du coup, on ne sait pas combien.
Exactement. Donc, des besoins existent. Les objectiver, c'est beaucoup plus compliqué. Après, sur la création de logements, des logements accompagnés, on est plus sur une logique de transformation. Est-ce que ça va libérer des places ? J'ai un doute, puisqu'on n'a pas d'études clairement pour dire c'est plus cher ou c'est moins cher en établissement ou en service.
Ah oui, c'est ça. On pourrait penser que laisser les gens à domicile et passer les voir une fois par jour, ça serait moins cher, mais pas forcément.
Pas forcément, parce que dans un établissement, vous êtes sur du tout compris. Donc l'établissement fournit toutes les prestations. Vous avez besoin d'un accompagnement.
Il y a une infirmière pour 10
voilà.
personnes.
Et elle fait tout sur place et elle n'a pas de déplacement. Une fois que vous prenez quelques personnes de cet établissement, que vous les mettez à domicile, vous allez avoir des coûts qui vont être imputés sur l'enveloppe assurance maladie de ville, donc on va avoir des coûts indirects qui vont être pris sur d'autres enveloppes. Vous allez avoir des déplacements des professionnels. Donc voilà, la question du bilan, qu'est-ce qui coûte le plus cher, et donc est-ce que ça libère des places, n'est pas une question aussi simple, puisqu'on a de multiples financements en France, ce qui ne facilite pas toujours les logiques de transformation d'ailleurs.
On va essayer de regarder la question du financement. On est avec Christophe Douéneau ce matin. Vous êtes directeur du développement et de l'offre de services à l'Association des paralysés de France. On parle du logement, le logement de demain pour les personnes handicapées.
Jusqu'à 8h30, l'invité de la rédaction de Vivre FM, Vincent Lockmann.
Christophe Douéneau est notre invité, vous êtes directeur du développement à l'Association des paralysés de France. On parle de logement. Christophe Douéneau, quand on imagine ce que peut être un foyer d'une personne, pour des personnes handicapées, il y a plein d'endroits où l'image qui vient, c'est un château à la campagne, coupé du monde, où les personnes handicapées vivent là. C'est formidable, il y a des oiseaux, il y a de la verdure. Mais alors si on veut aller au cinéma, là, il faut faire une heure de route. On en est encore là dans certains endroits.
Oui, incontestablement, il y a encore des établissements qui sont basés à la campagne. Alors ça ne veut pas dire que ça a toujours été le mauvais modèle, mais voilà, le modèle s'est organisé comme ça, sur des modèles qui venaient du nord de l'Europe.
Dans les années 60-70.
Exactement, et on a repris des châteaux, ou bien on a construit sur des zones plutôt isolées, il fallait isoler les personnes. Maintenant, on est dans cette logique de transformation, alors il faut gérer la transition.
Et puis
avec
le grand air, ça faisait du bien.
Exactement, oui. Donc maintenant, il faut réussir à trouver d'autres solutions. Donc c'est probablement réduire aussi peut-être un certain nombre de capacités d'hébergement dans ces établissements pour mettre des personnes dans des logements ordinaires au milieu de la ville. Il faut trouver beaucoup plus de partenariats avec l'environnement, l'éducation nationale, les lieux de formation, les entreprises, pour que ces personnes puissent être totalement intégrées dans la société. Mais effectivement, il y a encore un certain nombre de...
Mais le fond du problème, c'est qu'on les a mis là parce que le foncier était pas cher. C'était pas cher de construire à cet endroit-là. On allait au fin fond de la Creuse ou de la Lozère et on construisait là. On rachetait un château dont personne ne voulait parce que ça coûtait, c'était trop compliqué, trop grand, et c'était moins cher.
Alors certains territoires, certains départements ont basé leur développement sur cette logique. Il y avait une logique à se faire financer par des fonds publics d'État. Une logique.
Tout le monde était content. La commune voyait enfin quelqu'un arriver, le boulanger allait rester, la poste, et parce qu'on avait là 80, 100 personnes qui venaient s'installer.
Exactement. Et parfois avec des très gros complexes dans des zones rurales. Donc effectivement. Bon, alors ça reste vrai, puisque les collectivités locales ou certains acteurs peuvent avoir intérêt à ce que cette activité reste, mais après il faut savoir quel objectif on vise. Est-ce qu'on vise l'inclusion des personnes, et donc dans ces cas-là on a plutôt intérêt à mettre ces établissements à la ville, ou est-ce qu'on reste dans...
Mais alors du coup, si on veut construire la même structure de logement, le même foyer en centre-ville, ça va coûter une fortune pour acheter, il va falloir acheter un immeuble en centre-ville. On imagine acheter un immeuble à Paris pour loger des gens, c'est du coup très cher.
Alors effectivement, là, donc le financement est un financement public, hein, donc c'est un coût énorme pour la collectivité. C'est un coût aussi pour les gestionnaires que nous sommes, puisqu'il y a un coût d'entrée nécessairement sur ce type d'opération. Mais sur des zones comme Paris, PACA, on a des zones très, très, très chères également. Effectivement, ces déménagements sont des déménagements qui coûtent cher. En sachant que le château que vous revendez, parfois, est difficile à vendre,
oui,
est difficile à reconvertir.
Les colonies de vacances, ils n'en veulent
exactement,
plus.
Exactement.
Est-ce qu'on peut dire que, on va se dire les choses, on était content aussi de mettre les personnes handicapées assez loin des yeux, loin du regard, et que la période a changé, et qu'aujourd'hui, on est capable d'accepter d'avoir des personnes handicapées dans son quartier?
Oui, je pense que... Alors, il y a énormément de travail qui reste à faire, mais voilà, on est passé d'une logique de bénéficiaires qu'on accueillait bien gentiment dans des établissements, on a eu des usagers, et puis maintenant, on est sur une logique de droit. C'est-à-dire, c'est une personne, qu'elle soit handicapée ou pas, peu importe, on est sur une logique de droit. Donc, une personne handicapée, comme toutes les autres personnes, a le droit d'aller au cinéma, a le droit de faire du sport, a le droit de trouver un emploi.
Et d'habiter en ville.
Et d'habiter en ville.
En centre-ville.
Effectivement. Donc, on est sur une logique de droit. Les droits fondamentaux, un certain nombre de conventions européennes, internationales ont reconnu ces droits et doivent être déclinés maintenant dans l'offre de services qui est proposée et dans les logements qui sont proposés. On doit complètement transformer ça.
Alors on a vu aussi des innovations pour permettre à des personnes de vivre chez elles. On crée, c'est ce que fait Laurent Chorizet avec l'association qu'il a créée, on crée un immeuble dans lequel il y a des personnes valides et des personnes handicapées qui vivent ensemble, les uns s'entraident et dans les autres, moyennant des réductions de loyer.
Effectivement, dans le recensement que nous avons fait à l'APF, on a recensé à peu près 400 logements partout sur le territoire qui étaient sur ces modèles un peu intermédiaires. Ce que l'on voit, c'est que on n'a pas de modèle unique. On a des tas de solutions qui visent à tordre le médico-social ou à créer, à partir d'un partenariat avec un bailleur social, un logement qui va permettre à 2, 3, 4, 5 personnes handicapées d'être dans un logement beaucoup plus autonome. Mais actuellement, on n'a pas de modèle juridique, financier, qui permet d'avoir un cadre. Voilà.
Et ça veut dire que quand on fait ça, il faut négocier avec les financeurs pour avoir le droit de faire quelque chose qui n'est pas exactement dans les cases.
Très souvent, oui. Très souvent, oui. En sachant que le champ de l'accompagnement des personnes handicapées est un champ multi-financeur, multi-compétences, donc il faut négocier avec les financeurs. Très souvent, le conseil départemental. Il faut avoir un partenariat avec le bailleur social, la collectivité, là où les collectivités, la ville, l'intercommunalité. Et puis aussi souvent la MDPH, il faut que la MDPH accepte.
La maison départementale du handicap, il faut qu'elle accepte dans ses orientations.
Exactement.
De mettre des solutions qui, à nouveau, ne sont pas dans les cases.
Voilà, c'est ça. Il faut souvent un peu tordre les choses et parfois avoir un petit renforcement de moyens pour avoir cet accompagnement pérenne.
L'invité de la rédaction de Vivre FM jusqu'à 8h30, Vincent Lockmann.
On parle de logement ce matin avec notre invité Christophe Douéneau, directeur du développement pour l'Association des Paralysés de France. On essaye de regarder comment est-ce qu'on peut innover en matière de logement pour les personnes handicapées, que chacun puisse vivre là où il veut, à côté de son travail ou à côté des activités, s'il ne travaille pas, à côté du cinéma, à côté du stade, s'il veut aller applaudir son équipe préférée. Est-ce qu'il y a du côté de la technologie, du côté des maisons connectées, de l'innovation, est-ce que la solution, elle est par là? Est-ce qu'il n'y a pas une espèce d'utopie, de penser qu'on va tout solutionner avec des maisons numériques où au moindre problème, on appuierait sur un bouton et tout s'arrangerait.
Ouais, j'en ai rêvé, mais je ne l'ai encore pas vu.
Les financeurs en ont peut-être rêvé aussi.
Ouais. En fait, on a un certain nombre de pistes qui se dégagent. Dans les premiers liens nous, qu'on a eu à l'APF sur ce sujet, on voit qu'on est encore sur des solutions assez classiques, en fait. Sur des solutions de vidéo, enfin des choses qui peuvent exister et qui pourraient être généralisées. Mais il n'y a pas de... la solution magique pour faciliter le logement des personnes handicapées, moi, je ne l'ai encore pas vue. On essaye, nous, on a un centre qui s'appelle le CRNT, dans le Nord-Pas-de-Calais, Centre Ressources Nouvelles Technologies, qui vise à promouvoir ces nouvelles technologies, à les diffuser, à les faire connaître, voilà. Mais on voit qu'on est encore au début et que cette solution est... Voilà,
c'est très étonnant parce qu'on entend beaucoup parler de nouvelles technologies pour les personnes âgées. C'est-à-dire qu'on dit les personnes âgées, elles vont avoir le tapis qui détecte les chutes, elles vont avoir tout un tas de solutions comme ça. Et on a le sentiment que dans le champ du handicap, on n'en est pas là.
Alors, il me semble, pour répéter un peu ce qu'on disait tout à l'heure, on a des besoins en fait qui sont extrêmement hétérogènes. On va avoir une personne, entre guillemets, l'expression n'est pas belle, seulement en fauteuil. Et donc là, ça va être une accessibilité technique. On va avoir une personne déficiente visuelle ou déficiente sensorielle, déficience intellectuelle, handicap psychique, etc. Et donc, on voit qu'à chaque fois, c'est une solution individuelle qui doit être imaginée. Il me semble peut-être que sur les personnes âgées avec une logique de dépendance physique et de désorientation, c'est peut-être moins compliqué d'imaginer les grandes solutions standards avec surtout un besoin de sécurisation globale, de la téléalarme et puis une présence activation. Mais il y a des solutions effectivement qui peuvent être, à mon avis, complètement dupliquées. Hein. La silver economy, tout ça, vont y contribuer et vont transpirer du côté du handicap, notamment sur le logement. Incontestablement, c'est à souhaiter. Hein.
On a vu, alors dans les années 60, à nouveau, le modèle de Jean Vanier, de l'Arche, avec autour d'une philosophie catholique, développer des lieux où des jeunes viendraient apporter assistance à des personnes en situation de handicap. Alors, peut-être pas sur ce modèle-là, qui est vraiment marqué par une adhésion à une religion, mais est-ce qu'on n'a pas besoin, à nouveau, de retrouver des solidarités de proximité, indépendamment des structures médico-sociales, et que les gens soient aidés par leurs voisins, tout simplement, ou par leurs concierges?
Oui. Alors, ce que l'on a vu là dans le recensement que l'on a fait, c'est des personnes qui ont des besoins proches, notamment sur un besoin d'auxiliaire pérenne, se regroupent entre elles et du fait d'un besoin commun. Organise une solution entre elles.
Clairement, ça veut dire j'ai droit à une heure d'auxiliaire de vie par semaine. On prend un appartement, vous et moi, en colocation. Vous avez aussi droit à une heure. Et du coup, un ou deux, on a quelqu'un pendant 2 heures.
Voilà, c'est ça, c'est exactement ça. Sauf que c'est des solutions parfois qui peuvent concerner des personnes avec une dépendance très importante. Donc au lieu que nous soyons dans le même appartement, nous avons chacun notre appartement. Nous sommes 3, 4, 5, c'est un petit immeuble. Et il y a un partenariat avec un bailleur social et une association, l'APF ou autre, qui va venir intervenir avec l'utilisation de ces services. Donc un service d'auxiliaire de vie, un SAVS, un service d'accompagnement à la vie sociale, qui va intervenir en fonction des besoins des personnes sur, avec une présence 24-24, etc. Et donc une mutualisation des prestations.
Les personnes handicapées disent quelquefois que les grosses associations qui gèrent des établissements comme l'APF que vous représentez aujourd'hui ou d'autres, finalement, ont une tendance à garder les personnes handicapées captives dans leur foyer parce que c'est comme ça qu'elles vivent,
Je vous coupe la parole. Non, c'est vrai. Bon, incontestablement, le secteur médico-social a une logique d'enfermement qui est incontestable. On se bat là-dessus, on se bat contre ça à l'APF, c'est dans le projet de l'association. Pourquoi on a fait ce recensement? C'était aussi pour mettre en évidence que ce recensement sur les logements un peu innovants à l'APF, on essaye de sortir de ça. C'est notre objectif, il est clairement inscrit dans notre projet associatif et notre projet stratégique, on n'est pas attaché à notre financement médico-social, et s'il faut demain se séparer de ce financement médico-social pour des logiques inclusives, des logements comme ceux qu'on vient d'aborder, on est clairement dans cette dynamique.
Pour les professionnels qui sont très engagés, on va pas mettre en cause leur engagement et leur compétence, mais c'est un nouveau paradigme. Ça veut dire qu'il faut aller au domicile des gens. Ça veut dire qu'il faut d'abord se poser la question du souhait de la personne, de l'individu. Exactement. Ce qu'on a dit pendant toute cette émission. Les professionnels, ils sont prêts à ça?
Alors, c'est un changement radical. Il y a un accompagnement au changement, comme on dit de manière un peu consultant, très important, qui est à faire. Quand vous êtes depuis 2, 3, 4, 5, 10, 15 ans dans votre château, où vous arrivez à 9h et vous repartez à 17h30, et ben demain, vous allez vous retrouver dans une ville.
À 18h.
Exactement. Ça peut arriver. Vous allez demain intervenir, mais ça arrive dans beaucoup d'établissements, vous allez travailler à 50 km de chez vous, vous allez être mobile, vous allez aller à l'école le matin, l'après-midi vous allez aller à l'hôpital, c'est un énorme changement, clairement, il y a une transformation extrêmement importante. Mais on a des équipes qui le portent, tous les dispositifs qu'on a recensés sur le logement accompagné, ce sont des dispositifs qui ont été portés à l'origine par des professionnels qui ont ressenti ce besoin d'évolution et ce besoin de changement. On a des directeurs qui sont incroyables et qui portent des choses de transformation énormes.
Merci Christophe Douéneau d'être venu nous voir ce matin sur l'antenne de Vivre FM. On rappelle qu'il y a un colloque de l'Association des Parisiens de France la semaine prochaine à Paris autour de cette notion d'emploi accompagné.
Et de logement accompagné.
Logement accompagné, pardon. Et puis de l'accompagnement, il en sera question avec le président de la République le 19, puisque François Hollande réunit la Conférence nationale du handicap et on nous dit qu'on parlera justement de ces nouvelles solutions innovantes. On reviendra vous voir à ce moment-là. Merci.
Merci à vous.
D'être venu nous voir ce matin sur Vivre FM.
Vivre FM, l'invité de la rédaction, podcast.